Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce que le télescope spatial JWST va pouvoir voir ? Georges Braque, le peintre Georges Braque, recommandait de descendre jusqu'au chaos primordial et de s'y sentir chez soi. C'est très exactement l'ambition du télescope spatial James Webb, JWST pour les intimes, qui sera lancé le 22 décembre prochain grâce à une fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou en Guyane française. Successeur du télescope Hubble, ce nouvel instrument conçu par la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne devrait permettre d'observer les étoiles les plus anciennes, celles qui sont apparues seulement, si j'ose dire, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Il permettra aussi de mieux comprendre la formation des toutes premières galaxies. Mais ce n'est pas tout, et il s'en faut de beaucoup. Nos deux questions du jour seront donc celles-ci. Qu'est-ce au juste que le JWST et que va-t-il faire ? Et qu'est-ce que les astronomes et les astrophysiciens attendent ou espèrent de ce nouvel œil braqué, au sens de Georges Braque, dans les vastes profondeurs de l'espace et du temps ? Pour répondre à ces deux questions, j'ai le plaisir de recevoir mes deux invités. D'abord vous, Marine Martin-Lagarde, vous êtes ingénieure à l'ESA.
Bonjour.
Et Pierre-Olivier Lagage, vous êtes astrophysicien au CEA et tous les deux, vous avez joué des rôles très actifs dans la préparation de cette mission. Ma première question concerne votre état psychique. Dans quel état êtes-vous quelques jours du lancement ? Est-ce que vous avez peur ? C'est un lancement qui a été reporté plusieurs fois. Est-ce que vous avez encore des inquiétudes ? Marine Martin Lagarde ?
Peur, je dirais pas peur, mais surtout beaucoup d'excitation. Et l'excitation, il y a deux choses dans l'excitation. Il y a l'attente du lancement, c'est quelque chose qu'on... C'est une mission qui est ambitieuse. Avant même de savoir et de travailler, moi, sur le James Webb Space Telescope, je savais que cette mission elle était hors du commun. Donc on attend, même en dehors de la communauté scientifique, il y a beaucoup de gens qui attendent ce lancement. Et donc il y a du suspense. Et puis il y a du suspense parce que l'espace, c'est difficile. Et donc il y a toujours une part d'excitation et d'extraordinaire dans ce lancement.
Pendant combien de temps avez-vous travaillé sur ce projet ?
Moi, j'ai travaillé sur le James Webb pendant 3 ans, dans le cadre de ma thèse.
Que vous avez faite avec Pierre-Olivier Lagage. Alors vous-même, vous êtes dans quel état ?
Bien, je ne réalise pas encore tout à fait.
Vous serez sur place à Kourou ?
Oui, je ne veux vraiment pas louper ça. Et moi, j'ai commencé à travailler en 98. Donc, je me suis un peu blindé.
Ça fait 23 ans.
Et oui, donc je me suis un peu blindé... par les différents reports. Au départ, c'était en 2007 qui devait être lancé. On est en 2021. Et donc, je réalise pas encore tout à fait. Je sens que c'est bientôt. La pression monte un peu, mais comme je disais, il y a eu tellement de reports que j'ai peine à y croire qu'il va être lancé dans quelques jours.
Mais il y a peu de chances qu'il soit à nouveau reporté.
Non, je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit de nouveau reporté. Très peu de chances.
Alors j'ai une première question sur ce télescope lui-même. Qui était James Webb qui a donné son nom à cet instrument ?
Donc c'est l'administrateur de la NASA qui a conduit le programme Apollo. Et on lui rend aussi hommage parce que malgré ce programme qui était vraiment très coûteux, il a voulu garder un aspect science à la NASA. Et donc, c'est cet aspect-là qui a été, pour lequel on reconnaît sa forte contribution à la science.
Alors, avant qu'on détaille cet instrument lui-même, quel a été votre rôle respectif à chacun dans l'élaboration de ce projet ? Je commence par vous, Pierre-Olivier Lagage, parce que 23 ans, c'est long.
Oui, donc en 98, quand j'ai commencé, d'avoir un instrument, l'instrument MIRI, qui est dans le domaine de l'infrarouge.
MIRI.
MIRI, pour Mid Infrared Instrument. Donc, un instrument, donc la gamme de longueur d'onde, c'est de 5 à 28 microns. Alors, il y avait déjà...
Infrarouge.
Voilà, en infrarouge, bien sûr. Il y avait déjà des instruments dans l'infrarouge proche, donc qui va du visible jusqu'à 5 microns de longueur d'onde. Par contre, un instrument comme MIRI, dans la gamme de l'infrarouge thermique, il était en question. Il n'était pas automatiquement mis dans le projet, pour deux raisons. Première raison, c'est techniquement, c'était compliqué, parce que l'instrument lui-même devait être refroidi de façon active. C'est-à-dire que les autres instruments sont refroidis de façon passive, c'est-à-dire ils atteignent une température d'équilibre de 55K au bout de quelques temps.
Kelvin. Degré Kelvin, donc c'est une température négative mesurée en Celsius.
Oh oui, c'est...
Très négatif.
Exactement. Et par contre, un instrument dans l'infrarouge moyen doit être refroidi de façon active. Il faut une machine ou une grande bonbonne d'hélium liquide qui donne les frigories. Et comme ça a été fait pour des prédécesseurs comme ISO ou comme Herschel, d'autres satellites qui devaient être froids pour ce type d'instrument.
Si j'ai bien compris, ils doivent être froids parce que le télescope lui-même, il émet de la lumière infrarouge qui viendrait parasiter les signaux qui viennent des étoiles ou des galaxies.
Exactement, il y a deux raisons. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le détecteur lui-même. Les détecteurs, même sans lumière, ont un courant qu'on appelle un courant d'obscurité. Et il faut les refroidir suffisamment pour que ce courant soit faible. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et c'est ça qui conduit d'ailleurs à une température de 7 degrés Kelvin, moins de 166 degrés Celsius, proche du zéro absolu. Donc c'était un challenge technique et aussi scientifiquement. Les astrophysiciens à l'époque savaient que dans le domaine de l'infrarouge proche, il y avait beaucoup de choses à faire. Et il était beaucoup moins bien connu ce qui pouvait être fait en termes scientifiques dans le domaine de l'infrarouge moyen. Donc on était quelques-uns, à la fois en Europe et aux États-Unis, à se battre pour avoir un tel instrument parce qu'on connaissait le potentiel. Pourquoi on connaissait ce potentiel? Parce que moi-même, j'avais travaillé sur des instruments au sol, sur le VLT de l'ESO, et c'était des grands télescopes de 8 mètres, de miroir primaire, de diamètre de 8 mètres. Et là, au plus un télescope est grand, au plus une étoile n'est jamais un point, mais une tache, et cette tache, au plus le télescope est grand, au plus cette tache est petite. Donc, on peut voir ce qui se passe aux alentours d'étoiles, par exemple, grâce à cette propriété d'avoir des taches petites. Donc, je connaissais cet aspect-là. Donc, un grand télescope dans l'infrarouge thermique, c'est très bien. Mais pour l'instant, ils étaient qu'au sol. Et au sol, on est très gêné par tout ce qui est l'atmosphère. L'atmosphère émet. Et donc, en termes de sensibilité, on est très limité. Et l'idéal, le rêve à l'époque, pour moi, c'était d'avoir sur un télescope de grande taille, comme le JWST, qui fait 6,5 mètres de diamètre, son miroir primaire, d'avoir un instrument dans l'infrarouge moyen comme l'instrument Vizir pour lequel j'avais travaillé pour les sols. Allier la grande sensibilité et la grande taille.
On va y revenir, mais avant, Marine Martin-Lagarde, je voulais savoir quel avait été votre rôle, notamment pendant la thèse que vous avez effectuée sous la direction de Pierre-Olivier Lagage.
Alors moi, j'ai rejoint l'équipe de Pierre-Olivier en 2017 pour faire ma thèse pendant 3 ans au CEA. Et l'objectif de ma thèse, c'était de préparer les observations d'atmosphère d'exoplanètes avec cet instrument MIRI du JWST. Ces observations d'exoplanètes, c'est des observations qui sont très fines. On essaye de voir l'atmosphère, donc les signatures qu'on essaye de voir sont des signatures qui sont vraiment toutes petites. Et avec les méthodes de traitement de données qu'on avait jusqu'ici et qu'on a utilisées sur tous les télescopes qu'on a eu jusqu'à présent, on sait que ces données sont tellement petites qu'en filtrant les données pour enlever un petit peu le bruit, parce que les images qu'on obtient, que ce soit avec des télescopes au sol ou dans l'espace et qu'on doit nettoyer, ce nettoyage va enlever si on le fait comme d'habitude.
Donc on ne voit pas l'atmosphère.
Et donc on ne voit pas l'atmosphère. Et donc il y a depuis des années des scientifiques qui développent des méthodes justement de traitement de données astucieuses de plein de façons différentes, des façons très mathématiques, des façons... un peu plus empirique pour justement enlever ce signal de façon un peu plus astucieuse et pour arriver à obtenir ce signal. Et donc moi, mon rôle, ça a été de fabriquer des observations simulées pour justement qu'on puisse tester ces méthodes de traitement de données, puisque pour l'instant, comme le télescope n'est pas dans l'espace, pour pouvoir tester ces méthodes de traitement, il fallait des fausses données. Et donc moi, mon rôle, ça a été de fabriquer des fausses données du télescope. Alors j'avais...
Pour voir comment réagit l'appareil.
Pour voir comment réagissent les traitements de données. Donc j'avais plein de copains dans la communauté scientifique, puisque j'étais les seuls à avoir des données télescopes de James Webb. Elles étaient fausses, mais donc voilà, je pouvais introduire un signal et donner paquet de données aux scientifiques pour qu'ils essayent de récupérer ce que moi j'avais mis au départ.
Alors, quel est votre rêve? Quel genre d'atmosphère rêvez-vous de découvrir grâce à ce télescope qui indiquerait par exemple qu'une vie est possible sur telle ou telle exoplanète?
Alors, il n'y a pas une détection d'un élément qui permettrait de conclure sur le fait que...
Bah, de l'oxygène, ça devrait...
L'oxygène, c'est un indice. L'oxygène, l'eau par exemple, on peut avoir effectivement un faisceau d'indices concordants qui permettrait de soupçonner l'existence de vie sur une planète. Alors, après, il faut voir aussi ce qu'on appelle la vie. Et ça pose plein de questions très intéressantes en philosophie d'une part, mais aussi en biologie. Nous, on imagine la vie. La vie, c'est quelque chose qui consomme d'un côté, puis qui rejette des choses de l'autre. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est comment la vie modifie l'environnement, en l'occurrence nous, l'atmosphère, c'est ça qu'on regarde. Et donc, quelles sont les signatures qui seraient produites par la vie? Et donc, ce qu'on va chercher, évidemment, c'est une vie qui fonctionne comme la nôtre, basée sur une chimie du carbone qui consomme de l'oxygène, qui consomme de l'eau et qui va produire, par exemple, du méthane ou ce genre de traces biologiques. Mais on n'est pas certain non plus que ces traces de vie soient universelles. Donc il y a éventuellement des formes de vie qui fonctionnent de façon différente, qui consomment d'autres éléments et qui vont fabriquer d'autres éléments. Et donc ce qu'on va chercher, plutôt que forcément des traces précises de certaines molécules, ce qu'on cherche évidemment d'une part, d'autre part c'est chercher ce qu'on appelle de la chimie hors équilibre, c'est-à-dire qu'une planète... Elle a une atmosphère qui fonctionne parce qu'il y a des molécules qui se combinent, qui se décombinent, qui réagissent les unes avec les autres. Et on va avoir un espèce de mixture à l'équilibre chimique avec des molécules qui, à une certaine vitesse, vont se composer, se décomposer, etc. Et quand on a de la vie, on va forcer cette chimie dans un sens ou dans un autre et on va avoir une chimie qui peut être en déséquilibre. Et donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un forceur quelque part qui peut être de la vie, qui peut être autre chose, qui peut être du volcanisme, qui peut être plein de choses, mais ça fait partie de ces marqueurs qui peuvent être intéressants à voir.
Alors venons au jour du départ, le 22 décembre 2021. Donc ce télescope va être lancé par la fusée Ariane 5, c'est son 100e lancement je crois.
Oui.
Elle fait 53 mètres de haut. On a dit que le diamètre du miroir principal, c'est 6,5 mètres. Donc j'imagine que ce télescope ne rentre pas dans la coiffe de la fusée.
Et oui.
Comment est-ce qu'on fait pour l'emmener aussi haut?
Eh bien, il est complètement plié. C'est-à-dire que le miroir primaire de 6,50 mètres est fait de 18 hexagones. Et les trois qui sont de chaque côté sont repliés et vont se déplier une fois dans l'espace. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Il y a aussi un très grand écran thermique pour empêcher la lumière du Soleil et même de la Terre d'aller chauffer le télescope. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il devait être refroidi de façon passive, mais pour atteindre la température voulue, il ne faut absolument pas qu'il soit chauffé par le Soleil ou par la Terre.
Mais moi j'avais compris qu'il allait du côté du point de Lagrange numéro 2 qui est justement derrière la Terre par rapport au Soleil. Donc
oui,
normalement il devrait être protégé de la lumière du Soleil.
Ah non, non, parce que...
Il orbite autour du point de Lagrange.
Voilà, il orbite autour du point de Lagrange. De toute façon, s'il était dans l'ombre de...
Il faut que vous nous expliquiez ce que c'est qu'un point de Lagrange.
Ouais. Alors le point de Lagrange, il est situé, le L2, celui qu'on considère, il est situé à 1,5 million de la Terre. Hein, million de kilomètres de la Terre. Et à cet endroit-là, donc à ce point, il y a l'attraction du Soleil plus l'attraction de la Terre. Et les deux sont équivalents à l'attraction du Soleil au niveau de la Terre. Ce qui fait que la vitesse angulaire de la Terre et de ce point est la même.
Donc c'est vrai que le télescope va tourner autour du Soleil en même temps que la Terre.
Voilà, exactement. Et donc ces grands écrans thermiques qui protègent le télescope de la lumière du Soleil et de la Terre, eh bien, sera toujours dans la bonne position. Il n'y aura jamais un endroit où la Terre pourrait le chauffer ou le Soleil.
Donc, combien de temps va-t-il mettre pour atteindre ce point de Lagrange qui est à 1 500 000 km?
Il met 30 jours.
30 Donc jours. Ça fait 2000 km par heure, en moyenne.
Je suppose que
vous avez je ne me suis pas trompé, 2000 km par heure. Et une fois qu'il va être donc en position, ce n'est pas une position fixe, puisqu'il tourne autour du point de Lagrange, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que c'est une période où vous allez être passif, à attendre qu'il arrive, ou est-ce que vous avez du travail?
Alors, déjà, le long du chemin, les instruments vont être allumés. Et il va y avoir des tests fonctionnels. Ça ne sera pas encore des tests de performance, mais des tests fonctionnels. Et une fois arrivé, il va y avoir d'abord l'aspect phasage du miroir, réglage du miroir, de ces 18 hexagones. Il y a derrière chaque hexagone des petits actuateurs qui vont lui donner sa forme finale. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça va être les instruments. On va faire ce qu'on appelle la recette sur le ciel. On va regarder des sources et on va regarder les performances de l'instrument. Est-ce que les instruments ont les performances voulues pour faire la science voulue? Donc ça, ça va prendre 5 mois. C'est-à-dire que les observations scientifiques ne vont commencer que 6 mois après le lancement.
Donc en juin 2022.
Voilà, juin ou juillet, enfin oui. Donc...
Et alors, ça veut dire que pour vous, il y a un suspense qui va se produire au moment du lancement, mais qui va durer pendant toute cette mise en service des différents instruments.
Voilà. Donc, je pense que le plus gros suspense, ça sera déjà les 13 premiers jours après le lancement, puisque là, c'est 13 jours pour déployer complètement le télescope. Et ensuite, ça sera en effet les performances, être sûr que tout va bien.
Alors, qu'est-ce que ce télescope JWST va pouvoir faire que ne faisait pas Hubble? Et qu'est-ce que faisait Hubble que ne pourra pas faire le JWST? Hubble tournait autour de la Terre avec une orbite à 500 km au-dessus de la Terre, donc c'est une configuration assez différente. Le miroir était plus petit, mais les longueurs d'onde étaient différentes aussi.
Oui, alors là, il y a deux différences principales entre Hubble et le James Webb, vous les avez cités. La première, c'est effectivement la taille du miroir. Hubble avait un miroir qui avait un diamètre de 2,4 mètres de diamètre, parce que juste il fallait le faire rentrer dans une fusée. Donc, comme on n'avait pas encore décidé de plier les miroirs à cette époque-là, on était limité. C'était vraiment un des plus grands limiteurs pour la taille. Pour le diamètre des télescopes qu'on pouvait envoyer dans l'espace. Ça, c'est ça une grosse différence. Et la deuxième différence, c'est effectivement, Hubble est un satellite qui observe dans le visible et dans l'ultraviolet et un petit peu d'infrarouge. Et donc, il a pu faire toutes ces très belles images du ciel qu'on a vues principalement dans le visible, des images aussi des planètes du système solaire. Alors que le James Webb va vraiment et tourner uniquement vers l'infrarouge. Donc, il va y avoir une partie d'infrarouge qui va être en commun avec Hubble. On va pouvoir faire des comparaisons entre les observations et surtout, il va aller beaucoup plus loin dans l'infrarouge, et en particulier grâce à l'instrument MIRI.
Loin vers les grandes longueurs d'onde, les petites?
Loin vers les grandes longueurs d'onde. Donc jusqu'à, pour l'instrument MIRI, jusqu'à 28 microns, ce que Hubble ne faisait pas.
Quelle est la résolution spatiale qui est attendue, par exemple pour la caméra MIRI dont vous avez la charge, Pierre-Olivier Lagage?
Donc les pixels, c'est autour de 0,1 seconde d'arc, 100 milliarcsecondes.
Ce qui veut dire?
Alors, ça veut dire petit.
Mais... Moi, j'ai fait le calcul, hein. Je peux vous aider. Ça veut dire qu'on peut voir un ballon de football placé à une distance de 550 km. C'est juste ou pas? C'est
oui.
Votre instrument, hein, c'est pas le mien.
Oui.
On ne regarde pas les ballons de foot avec. C'est compliqué.
Mais ça serait une découverte pour le coup.
Oui, effectivement.
Alors, est-ce qu'on peut revenir en détail sur ce choix que vous venez d'expliquer, à savoir de... Regardez l'infrarouge, seulement l'infrarouge. Qu'est-ce qu'on apprend avec l'infrarouge? Pourquoi on est obligé, pour voir des galaxies très jeunes, qui sont donc apparues très tôt dans l'histoire de l'univers, donc elles sont très vieilles, pardon, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser cette longueur d'onde? Est-ce que c'est lié à l'expansion de l'univers?
Oui, principalement c'est ça, l'expansion de l'univers.
Alors expliquez-moi comment on arrive à cette conclusion.
Donc au plus on veut regarder loin, déjà, au plus on regarde tôt. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a le phénomène de décalage vers le rouge. Donc l'émission qui est faite d'une galaxie dans le visible, eh bien, nous arrive dans l'infrarouge. Donc il faut absolument, pour voir plus loin que le HST, il y avait deux limites, hein, sa surface collectrice, sur la taille de son miroir, et le fait qu'il n'était que dans il n'observait que dans l'infrarouge proche. Donc il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Il a fait des observations très très longues, mais Il faut absolument aller dans l'infrarouge pour pouvoir voir plus loin et donc plus tôt.
C'est intellectuellement difficile de recevoir de la lumière infrarouge et de se dire que l'objet qui a émis cette lumière ne l'a pas émise dans l'infrarouge.
Oui, mais c'est comme ça.
L'infrarouge, ça permet donc, si je comprends bien, de voir des objets qui sont là depuis très longtemps dans l'univers, qui ont peut-être même disparu, mais qui sont des signatures de ce qui s'est passé dans l'univers, disons, jeune.
Oh, même très jeune. Très, très jeune.
Oui, 100 millions d'années.
Oui, exactement. C'est pour nous, c'est très jeune.
Quand est-ce que sont apparues, justement, les premières étoiles? Pour autant qu'on le sache aujourd'hui.
Mais non, justement, c'est ce qu'on veut voir. Là, on regarde une zone qu'on appelle la sortie de l'âge sombre, complètement vierge d'observation. Et on peut avoir des surprises. Je ne serais pas étonné qu'on ait des surprises.
Mais alors, quel est l'âge ou à quel moment dans l'histoire de l'univers sont apparues les étoiles les plus jeunes connues aujourd'hui?
Ah, connues. Eh bien, alors, le HST, alors on n'a pas vu des étoiles, on voit
HST,
des galaxies.
HST, c'est Hubble.
Hubble. On ne voit pas des étoiles individuellement, on voit des galaxies. Et Hubble, la plus lointaine, donc c'est le plus tôt, c'est autour de 300 millions d'années. Mais c'est certainement une galaxie qui n'est pas représentative des galaxies de cette époque-là. Parce que pour pouvoir l'observer, ça a dû être un monstre. Et donc, non seulement le Webb, JWST, va aller voir plus loin, mais va voir toute une population de galaxies à l'époque où Hubble en a vu une. Il faut vraiment avoir un échantillon statistique pour comprendre ce qui se passe.
Mais qu'est-ce qui est apparu en premier? C'est une sorte de poulet d'œuf, mais les étoiles qui ont donné des galaxies en se regroupant du fait de la gravitation, ou est-ce que d'abord des espèces de gaz qu'on appelle des pré-galaxies, je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie, qui fécondent des étoiles?
C'est un débat.
Y a pas... J'avais cru comprendre qu'il était tranché.
Non, enfin pour moi il n'est pas tranché tant qu'on ne l'a pas observé. Tant qu'on n'a pas fait des observations... ça reste, pour moi, à trancher.
Marine Martin-Lagarde, vous regardez puis votre directeur de thèse avec un regard interrogatif. Vous avez une idée, vous ?
Non, je n'ai pas plus d'idées. Comme c'est une zone qui est, comme l'a dit Pierre-Olivier, vierge d'observation, la seule chose qu'on a pour comprendre ce qui se passe, aujourd'hui, c'est des modèles mathématiques, des modèles physiques qui... On essaye d'imaginer, alors on n'imagine pas en faisant des dessins, on connaît, avec ce qu'on connaît des lois de la physique, on va essayer de dire, ben voilà, si l'univers a commencé comme ça, voici, selon les lois de la physique qu'on connaît, comment il aurait évolué au début dans cette zone qu'on n'a pas vue. Mais les lois de la physique, on n'en a pas une compréhension complète. On n'en aura peut-être jamais une compréhension complète, donc on fait avec les bribes de compréhension qu'on a, et puis des hypothèses. Et donc ces hypothèses, elles sont différentes justement en fonction des courants de pensée dans la physique, qui amènent du coup à des résultats de simulation qui sont différents. Le but étant que ces simulations, au moment où elles arrivent à un temps où ça y est, on a des observations, bah, il faut qu'elles collent à ce qu'on voit. Et donc on va commencer à ce moment-là à pouvoir discriminer entre les modèles qui ont raison et les modèles dont on sait qu'ils n'ont pas forcément tort.
C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui pensent que c'est les étoiles qui naissent en premier et d'autres qui pensent au contraire que ce sont les galaxies, et vous allez comparer leurs prédictions?
Voilà, on va prendre leurs prédictions, et puis une fois qu'on va pouvoir regarder avec le James Webb, et puis avec des instruments qui vont suivre, puisque plus on aura des instruments performants, et plus on va pouvoir aller loin, donc on va regarder ce qu'on observe, et puis éliminer du coup les modèles qui ne fonctionnent pas, et puis si on n'en a aucun qui fonctionne, et ben, on va continuer de se poser des questions, on ne va pas s'arrêter là, et s'asseoir en tailleur, on va continuer de se poser des questions, et jusqu'à pouvoir expliquer, affiner notre compréhension de la physique, enlever certaines hypothèses, et c'est comme ça, petit à petit, en vérifiant nos théories avec les observations, qu'on avance en physique.
Mais les galaxies les plus anciennes qui ont été vues par Hubble, elles ont quelle forme? Est-ce qu'elles ont la forme spirale qu'à notre Voie lactée, ou est-ce que c'est autre chose?
Non. Actuellement, il y a soit des elliptiques, soit des spirales. Et dans le passé, c'était beaucoup plus diversifié. Il y en avait des irrégulières, il n'y avait pas des belles formes comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Et l'une des grandes questions, c'est pourquoi cette diversité a disparu? C'est un peu...
Aujourd'hui, elles sont... Enfin, aujourd'hui,
voilà, on peut les classifier entre...
Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, s'agissant de l'univers, puisqu'on voit que le passé...
Ah ben, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est il n'y a pas très longtemps pour nous, par rapport à 13 milliards d'années.
Il y a un milliard d'années.
Voilà,
c'est ça. Aujourd'hui.
Pour nous, c'est aujourd'hui.
Donc, il y a un milliard d'années, elles ont des formes soit elliptiques, soit spirales.
Voilà.
Ce qui n'est pas le cas dans des temps plus anciens. Est-ce que vous comprenez par quel mécanisme des formes très diverses peuvent se répartir en deux catégories, finalement?
Non, c'est l'une des grandes questions. Et on espère que le James Webb va répondre à cette question-là. En justement, en regardant l'évolution des galaxies. Non seulement il va regarder plus loin et donc plus tôt, mais il va pouvoir voir, notamment dans l'infrarouge, l'ensemble des galaxies. Hubble ne voyait les formations d'étoiles que une fois, pas les premières formations d'étoiles, parce que quand une étoile se forme, elle est encore entourée d'un disque de gaz et de poussière, et son émission est dans l'infrarouge. C'est d'ailleurs une des premières surprises d'un des satellites infrarouges, ISO, où ils ont vu, en regardant des galaxies, des zones qui apparaissaient noires dans le visible et très brillantes dans l'infrarouge, parce que c'était très actif en formation d'étoiles. Donc l'une des questions dans l'évolution de l'univers, c'est l'évolution du taux de formation d'étoiles, puisque c'est ça qui fait en gros vivre une galaxie. Et pour avoir accès à ce taux de formation d'étoiles, il faut regarder en infrarouge. Donc la question de l'évolution des galaxies, le JWST va aussi avoir un impact très grand sur ces questions d'évolution des galaxies, que ce soit en termes de formation d'étoiles, que ce soit en termes de morphologie. Vu sa grande taille, vu la possibilité de voir des détails, il va pouvoir résoudre certaines galaxies et justement essayer de montrer pourquoi cette diversité qui est, on pense, très grande au début, naît maintenant, enfin, comme je dis aujourd'hui, mais...
Il y a un milliard d'années, donc.
Voilà. Pourquoi maintenant on n'a plus que des elliptiques ou des spirales?
Est-ce qu'on connaît la variation au cours du temps du taux d'étoiles qui est fabriqué par l'univers observable?
Oui, on connaît à peu près, notamment grâce à l'infrarouge, et le maximum se situe vers des... j'ai le chiffre en redshift, des décalages vers le rouge de l'ordre de 3-4. Donc,
c'est très ancien.
Ouais, le pic de formation est ancien et les galaxies forment actuellement beaucoup moins d'étoiles que dans le passé. Elles sont en train de diminuer en termes de formation d'étoiles.
Marine Martin Lagarde, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelles sont les choses que vous attendez le plus, à part les affaires d'atmosphère d'exoplanètes que vous avez évoquées tout à l'heure?
Oh, moi, c'était mon champ de recherche, les exoplanètes, donc c'est vrai que j'ai une curiosité particulièrement tournée vers les exoplanètes et les planètes, et surtout, comment est-ce que avec les découvertes qu'on va pouvoir faire avec le James Webb sur les exoplanètes, on va pouvoir éventuellement compléter notre compréhension de comment le système solaire, mais aussi la planète Terre, fonctionne. Donc c'est vrai que moi j'ai une sensibilité plutôt de planétologue sur ce sujet.
Mais le JWST dont nous parlons aujourd'hui, il va pouvoir, il va permettre de découvrir de nouvelles exoplanètes, pas simplement de regarder les atmosphères de celles que nous connaissons.
Alors,
j'imagine.
Non, on ne va pas faire de détection avec le James Webb Space Telescope. Donc il y a plusieurs manières de faire des détections d'exoplanètes. La première, qui est la méthode des transits, c'est on voit une planète passer devant son étoile régulièrement. Donc en fait, on va regarder une étoile et puis régulièrement, son flux va diminuer de façon très périodique. Et donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose
qui passe devant
régulièrement et qu'éventuellement, c'est une planète. Une deuxième méthode qui est une méthode de vitesse radiale. On va mesurer la vitesse d'une étoile et puis cette vitesse, normalement, n'a pas de raison de changer au cours du temps. Et puis pareil, on va détecter des variations de vitesse périodiques aussi, et donc on va dire mais peut-être qu'il y a quelque chose qui perturbe le mouvement de cette étoile, ça peut être une planète aussi. Ça, c'est les méthodes de détection pour lesquelles on n'a pas besoin du James Webb, et d'ailleurs, c'est pas forcément l'instrument le plus adapté. Dans le cas de par exemple des vitesses radiales, il faut des spectromètres à très haute résolution. C'est des instruments au sol qui font ça. Par exemple, la première exoplanète autour d'une étoile qui a été découverte à l'observatoire de Haute-Provence par la méthode des vitesses radiales. Donc ça, c'est on a maintenant des quantités d'exoplanètes qui sont découvertes par ces deux biais-là. Principalement, il existe d'autres méthodes de détection, mais c'est les deux principales. Et nous, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on sait quelles sont ces planètes, on pointe pas le James Webb au hasard sur une planète ou une autre. On va dire, bah voilà, celle-ci, elle a telle ou telle masse, elle a tel ou tel rayon, c'est tout ce qu'on sait. Mais on se doute qu'elle peut être intéressante, soit parce qu'elle est dans un système, elle n'est pas toute seule autour de son étoile, et donc on va être intéressé, soit parce qu'on a fait, on a des points de mesure qui sont pas aux mêmes longueurs d'onde, et donc on sait que la planète elle a pas le même rayon à toutes les longueurs d'onde. Et donc si c'est pas, ça veut dire que c'est pas un caillou, ça veut dire qu'elle est composée au moins de.
Comment ça, la planète n'a pas le même rayon à toutes les longueurs d'onde. Parce qu'elle est gazeuse.
Parce que soit elle est gazeuse, soit elle a une atmosphère. Et donc du coup. À une longueur d'onde donnée, la lumière produite par l'étoile est absorbée plus qu'à une autre longueur d'onde. Et donc ça, c'est un indicateur qu'il y a une atmosphère. Si c'est un caillou, le caillou, il n'a pas un rayon différent en fonction de la longueur d'onde. Et donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a une atmosphère, mais ça donne une information qui est très très limitée sur l'atmosphère. Et donc on va à ce moment-là pointer le James Webb sur ce genre de planète en disant, là, on sait qu'il y a une atmosphère. On sait que c'est un système qui est particulièrement intéressant à étudier. Donc là, on va pointer le James Webb et on va dire, on veut en savoir plus.
Mais il y a 4 instruments sur le James Webb télescope. Est-ce qu'ils seront en concurrence? Est-ce qu'il faudra se battre pour pointer dans telle direction plutôt que telle autre? Ou est-ce que tout ça pourra fonctionner dans une belle harmonie?
Alors, déjà, faut voir comment fonctionne le temps de télescope. Comment fait-on pour avoir du temps de télescope? Alors, en tant que développeur d'un instrument, on a du temps de télescope garanti.
Donc, pas énorme. En tant que développeur de MIRI, l'un des 4, vous avez du temps garanti.
Voilà. On a, pour le consortium européen, on a 450 heures. C'est pas énorme, mais ça permet.
Sur quelle période?
Alors, essentiellement la première année, on peut l'utiliser aussi la deuxième et la troisième année de vie du télescope.
Qui sera est censé 5 ans?
5 ans, on espère tous 10 ans.
Garantie ça dépend de quoi?
Alors, non, c'est simplement par prudence. C'est 5 ans. Si on fait des calculs de fiabilité, etc., la fiabilité est calculée pour que ça soit minimum 5 ans.
De toute façon, s'il y a un problème, on ne pourra pas aller le réparer. 1 500 000 km.
C'est plus
que Hubble avait été réparé en orbite.
Mais finalement, c'est que 4 fois la distance Terre-Lune, 1,5 million de kilomètres.
Non, mais avec les astronomes, on arrive à dire des choses complètement absurdes.
Pierre-Olivier, il partirait le réparer, il n'y a aucun problème.
Donc, on a ce temps garanti et on va passer une bonne partie de ce temps garanti, un tiers, pour observer justement des programmes difficiles, des exoplanètes, notamment des exoplanètes rocheuses. TRAPPIST 1b, c'est ma planète favorite.
Pourquoi?
Alors, parce que c'est une rocheuse déjà, elle tourne autour d'une étoile naine, donc elle est plus facile d'être observée. On va l'observer en éclipse, c'est-à-dire on regarde l'étoile plus l'exoplanète juste avant qu'elle passe derrière l'étoile. Une fois qu'elle est derrière l'étoile, on n'a plus que l'étoile, on fait la différence et on a l'émission de l'exoplanète. Et ça sera la première fois qu'on pourra obtenir l'émission d'une exoplanète tempérée. Et ça, c'est toujours dans l'optique...
Tempérée, c'est-à-dire température de l'atmosphère.
Voilà, tempérée, qui sera donc, quand je dis tempérée, c'est 100 degrés Celsius. Donc pour nous, c'est chaud, mais pour une exoplanète observable... Et pour moi, c'est un des premiers pas pour être plus ambitieux et aller après observer des exoplanètes dans la zone dite habitable. Ce qui veut simplement dire, habitable n'est pas forcément un bon mot, mais ça veut simplement dire que l'eau peut être sous forme liquide. Si elle est trop près de son étoile, c'est sous forme gazeuse. Si elle est trop loin, c'est sous forme glace. Et on pense qu'il faut de l'eau pour la vie. Mais tout ça, c'est juste... faut pas aller plus loin que ça.
Quelle est la proportion du ciel que... ces différents instruments vont pouvoir voir à un instant donné?
Alors, ça dépend des instruments, mais par exemple, MIRI, le champ est pas très grand. C'est quelques minutes d'arc. Donc, une minute d'arc.
Fraction par rapport à 360 4 pistes radians, comme on dit?
C'est tout petit. Une minute d'arc...
Donc, il faut le faire viser, il faut qu'il vise.
Ah, exactement. Oui, c'est vraiment... pour observer des objets déjà connus, notamment dans l'infrarouge, exoplanètes, etc. Et en termes de champ cosmologique, il devra faire des balayages. Alors l'intérêt pour ces balayages, c'est que deux instruments peuvent être peuvent observer en même temps, mais ils observent pas le même champ. Ils observent des champs différents. Mais quand on fait des balayages, chaque instrument peut finir par voir le même champ. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce type d'observation. Donc ça, c'est des observations en temps garanti. On a aussi après des observations en temps ouvert. Et là, il faut faire des demandes à des comités. Donc il y a un facteur de pression. Donc déjà, il y a eu pour le premier cycle, la première année d'observation, il y a eu un appel aux astrophysiciens. Dites-nous ce que vous voulez observer. Il y a eu évidemment beaucoup plus de demandes que de possibilités, un facteur 4 à 5 fois plus de temps demandé que possible.
Donc une sorte de comité de sélection.
Exactement. Donc les comités de sélection qui ont sélectionné les meilleures propositions. Et il y a eu beaucoup de réponses. Hein. Il y a eu 4000 astrophysiciens concernés. Donc c'est quand même au niveau du mondial. Ça a été ouvert à tout le monde. Et l'Europe a un minimum de 15% du temps pour la participation de l'Europe au JWST. Et finalement, oui.
Et cet instrument dont vous avez eu la charge avec votre équipe, Pierre-Olivier Lagage, qui s'appelle MIRI, il a quelle taille? Quels ont été les grands défis technologiques pour le concevoir? Vous l'avez dit, plusieurs dizaines d'années.
Oui.
Donc j'imagine que
vous
pouvez en parler pendant des heures.
Alors il y a déjà deux grandes parties, hein, une partie plus imageur, une partie plus spectroscopie. La partie de l'imageur au début...
Qu'est-ce qu'on appelle un imageur?
Alors, c'est faire des images. Donc, il fait des images classiques. Il fait des images à haut contraste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met un coronographe, comme il y a eu les premiers coronographes pour voir les environnements du Soleil. Hein. Le coronographe, en gros, éteint l'étoile pour voir ce qui se passe autour. Donc ça, c'est un mode de haut contraste. Et notamment, ce mode-là permettra de voir des exoplanètes de façon... en imagerie directe. Donc ça, c'est un imageur qui fait des images, qui fait avec différents filtres, donc des photos, disons, photos, différents filtres, de la coronographie et puis un peu de spectroscopie. Et à côté, on a un vrai spectromètre moyenne résolution. Pour l'imageur, on n'avait le droit qu'à un seul mécanisme. Donc il a fallu avoir les différents modes d'observation avec un seul mécanisme. Donc le schéma optique a pris quelques années pour trouver le bon schéma optique, le bon design optique. Ensuite, comme tout instrument spatiaux, on doit être limité en taille, ça doit être petit. Donc c'est une grosse.
C'est la contrainte de la fusée.
Ouais, la fusée, oui, entre autres la fusée, mais il y avait plusieurs instruments, etc. Donc chaque instrument avait une zone réduite. Donc c'est une grosse boîte à chaussures pour MIRI. Donc il faut tout faire rentrer. Après, il faut que ça... Au moment du lancement, il y a des vibrations énormes. Donc il y a toute une série de tests pour vérifier que l'instrument va survivre au lancement. On va pas avoir de... Donc ça aussi, ça prend du temps. Différents modèles. En termes de technologie, ce qui a été le plus nouveau, ça a été justement l'aspect coronographie. Donc pour éteindre l'étoile avec ce qu'on appelle des masques de phase. C'est un petit peu compliqué à expliquer. On peut le dire rapidement, si on met l'étoile au centre de 4 cadrans, avec chaque cadran une petite différence d'épaisseur, il n'y a pas le même chemin à l'intérieur de cette petite plaque. Et donc, il y a un déphasage de la lumière. Là, c'est l'aspect ondulatoire de la lumière qui doit être pris en compte. Et ça fait une sorte d'interférence destructive. Donc, on éteint comme ça l'étoile. Et ça venait d'être inventé par Daniel Rouen de l'Observatoire de Paris. Et on a pu tout de suite les mettre dans l'instrument MIRI. Et c'est une première actuellement. Il n'y a jamais eu de tel coronographe lancé dans l'espace.
Est-ce que vous êtes sûr d'avoir pensé à tout?
Justement, c'est l'aspect des modèles. Hein, ça permet justement, il y a plusieurs modèles, ça permet de se dire qu'on a pensé à tout.
Est-ce que vous pensez que ce nouveau télescope spatial, qui pèse 6 tonnes au total, je crois,
oui,
6 tonnes 5?
Oui, exactement. Moins lourd que le HST. Hein.
Moins lourd que le Hubble,
ouais.
Mais il est plus loin.
Oui,
plus grand. Est-ce que vous pensez qu'il va modifier la façon dont nous racontons l'histoire de l'univers à partir de la sortie de ce que vous appeliez tout à l'heure l'âge sombre?
J'espère qu'on va avoir des surprises dans les différents domaines. Sinon, de toute façon, on sait déjà que c'est la matière noire qui donne les premières structures.
J'allais vous poser la question, est-ce que sur la matière noire, on aura peut-être des contraintes nouvelles ?
Ben, on ne pourra pas dire c'est tel type de matière noire, on pourra simplement dire si c'est chaude ou tiède, on n'a pas exactement la même évolution de l'univers selon le type de matière noire. Et il faut absolument de la matière noire actuellement pour expliquer l'évolution de l'univers, la formation des structures. Et donc ça va pouvoir donner des contraintes grossières sur cette matière noire.
Mais sans dire de quoi elle est constituée.
Voilà, non, ça on ne pourra pas dire de quoi elle est constituée. Ça, il faut attendre...
Qu'est-ce qui manque ? Il faut des accélérateurs de particules qui fassent des collisions permettant de fabriquer des particules de matière noire ?
Ça, c'est une piste. C'est aussi la piste, c'est les grands détecteurs souterrains pour essayer d'en détecter. Donc ça reste une grande énigme, mais le JWST ne va pas répondre sur la nature de la matière noire en termes de particules ou quoi que ce soit. Par contre, elle va donner des indications globales, chaudes, tièdes.
J'ai presque une dernière question, mais elle est prosaïque, je m'en excuse, parce que elle nous ramène sur Terre, mais quel est le coût d'un tel projet ? J'ai vu qu'il y a eu, dans son histoire, dans son élaboration, des mauvaises surprises qui ont augmenté le coût final.
10 milliards.
10 milliards.
Voilà. Donc, au départ, c'était 500 millions. Et puis, en effet...
500 millions ?
Oui, tout départ. Bon, très vite, c'est arrivé au milliard. Et maintenant, c'est 10 milliards.
20 fois plus.
Oui, et il y a eu, notamment à cause du décalage dans le temps, de 2007, quand j'ai commencé à travailler dessus pour le lancement, puis 2011, et maintenant, on est en 2021.
Mais qu'est-ce qui a provoqué ces retards ? À part le Covid, pour des raisons évidentes, non, mais avant, il y a eu d'autres retards ?
Oui, il y a surtout eu, je pense, une sous-estimation du nombre de tests. Enfin, il y a eu, justement, comme c'est au point de Lagrange L2, à 1,5 million de kilomètres, et après l'aventure, la mésaventure de Hubble qui est apparue en louchant, entre guillemets, il y a eu toute une série de tests à tous les niveaux.
Qui ont augmenté le coût.
Donc nous, on a testé notre partie à Saclay. Après, on l'a envoyé au RAL en Angleterre. Ça a pris aussi du temps, etc. Et c'est des tests cryogéniques. Il faut refroidir, faire le vide, faire le froid. Et ça, chaque test prend longtemps.
Et vous, Marine Martin-Lagarde, vous avez pensé à tout ?
Alors, ben, j'espère. En tout cas, ce qu'il faut savoir, je pense, ce qui est intéressant sur les retards, c'est on a décidé à un moment... De dire, ok, c'est sympa d'avoir une limite de diamètre de télescope pour rentrer dans une fusée, mais c'est pas assez. Donc, on va prendre ce miroir et on va faire un origami avec. Et à ce moment-là, on a un changement de paradigme dans la façon dont on fabrique un télescope, dont on fabrique un miroir, dont on fabrique on a toujours eu des choses qui se déploient dans les satellites, mais là, c'est vraiment le cœur scientifique de la mission qu'on va déployer. On va déployer le miroir primaire, le miroir secondaire, le bouclier solaire. Et donc forcément, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est une mission qui a énormément de retard, mais il n'y a pas un instrument qui a été fait de façon plus facile et plus rapide qui est arrivé et qui a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de cette technologie de télescope et de cette taille de miroir pour faire ce qu'on a envie de regarder avec le James Webb. C'est ce qu'on appelle une innovation de rupture. Et donc forcément, ça vient avec des risques, et ces risques, puisque c'est une mission qui est chère et avec énormément d'attentes, ces risques, on a envie de les identifier, on a envie d'avoir pensé à tout, et donc on va effectivement faire des tests, et puis dès que quelque chose se passe presque comme on attendait, mais pas tout à fait, en fait on veut identifier, on veut mettre toutes les chances de notre côté, parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des points de défaillance uniques en ingénierie, c'est-à-dire si un côté de miroir ne se déploie pas, on n'a plus de mission. Et donc on va...
Quelle heure sera lancée cette fusée, le 22 décembre ?
Alors,
heure française ? Enfin, heure métropole plutôt, parce qu'on sera en France.
Voilà, alors 7h20, heure de Kourou, ça c'est ce que je connais.
Ça sera retransmis à la direction.
Oui, oui, oui.
Donc quelle heure en France ?
Donc ça sera, je pense, 13h, plutôt 13h20. Il doit y avoir.
Bon, on pensera beaucoup à vous. Voilà, merci d'être venu à Questions de Science. C'était donc Questions de Science avec vous, Pierre-Olivier Lagage, et vous, Marine Martin-Lagarde, que je remercie. C'était donc Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Dimitri Paz et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.